Bonsoir à toutes, à tous. Ce soir, nous commençons tout de suite avec la première partie du cours. Je ne vais pas prendre le temps de faire une reprise parce que toute la première partie, l'introduction, a été au fond une manière de vous donner l'environnement et les structures, l'architecture du cours. Donc, nous commençons tout de suite donc à la page 27 de votre polycopier, avec la première partie, la perspective christologique de l'anthropologie théologique et le sous-titre « Élaboration scripturaire et doctrinale d'une problématique contemporaine du salut ». Je vais donc me centrer maintenant, pendant tout un temps, toute cette longue première partie, sur le noyau, pourrait-on dire, de l'anthropologie chrétienne, qui est donc le rapport entre les chrétiens que nous sommes et le Christ. On croisera ici, évidemment, à plusieurs reprises la christologie. Et donc, c'est l'autre versant de la christologie, c'est-à-dire l'anthropologie ne s'intéresse pas directement, mais immédiatement seulement au Christ. Et c'est donc le « pour nous » et le « pour notre salut » qui nous intéresse. Cette formule dans le credo « pour nous et notre salut, il descendu du ciel ». Le « pour nous » et le « pour notre salut » donc répond à la christologie, ce qu'on appelle la sotériologie, quelques termes techniques quand même, c'est-à-dire la doctrine du salut. Soteria veut dire « salut », la doctrine du salut. Donc ça sera toute la première partie. Je dis tout de suite, je ne ferai pas l'histoire du dogme au sens strict du terme. Ça demandera énormément de temps, bien sûr, de faire cela d'une manière très détaillée. Et vous avez quand même un certain nombre d'ouvrages qui sont indiqués dans la bibliographie. Si tel ou tel point vous intéresse, au cours de route, je vais indiquer aussi un certain nombre de choses. Je peux toujours déjà conseiller l'ouvrage du père Sesboué, « Jésus-Christ, l'unique médiateur » que j'ai déjà cité. Et au fond, la première partie, le premier volume, c'est une problématique et une relecture doctrinale qui est au fond une sorte d'histoire du dogme, pourrait-on dire. Et il y a évidemment aussi l'histoire du dogme, c'est le troisième tome. Voilà, donc j'entre, si vous voulez, je dirais, dans cette partie sotériologique, donc le noyau de l'anthropologie chrétienne, je souligne chrétienne, le rapport au Christ. J'entre évidemment à partir de la problématique contemporaine que j'ai développée dans toute la partie introduction. Donc c'est au fond, il y a une histoire à rebours, si je puis dire, à partir d'aujourd'hui, une relecture rigoureuse évidemment de cette histoire scripturaire et doctrinale, mais dans l'intérêt de dire quelque chose du salut aujourd'hui. C'est ça, évidemment, notre question qui nous intéresse. Alors, si vous regardez le plan, un peu à la page 5, donc on voit déjà là, je veux dire, comment l'ensemble est organisé. Je vais commencer par un travail biblique aujourd'hui avec vous. Et le titre du premier chapitre indique déjà, au fond, je dirais, la pointe de ce que je vais faire avec vous. Pour un élargissement du champ biblique et anthropologique de la sotériologie, maintenant vous connaissez le terme, contemporaine. Donc il y a une thèse derrière, c'est-à-dire qu'il y a quelques étroitesses qui se sont produites dans notre histoire. Je vous rappelle la notion de déconversion que j'ai développé à la suite de Bernard Sesboué dans le deuxième chapitre de la partie introductive. Et ensuite, on va suivre l'histoire, le débat entre Pélage et Augustin. C'est à partir de ce moment-là qu'émerge réellement ce qu'on pourrait dire une anthropologie chrétienne, le salut comme éducation divine ou comme grâce infaillible, sans doute faut-il utiliser les deux. C'est très intéressant, je dis ça en passant, quand vous regardez la dernière mouture du texte du synode sur la famille, Je n'ai pas encore eu la version française, mais uniquement la version italienne. Vous savez, il y a eu un débat sur la loi de la gradualité. Et alors le terme gradualité a été remplacé par pédagogie divine. C'est évidemment un vieux terme qu'on trouve pour la première fois chez Clément d'Alexandrie et qui traverse ensuite l'histoire de l'anthropologie. Alors, c'est tout le problème de la grâce qui va se poser ici. Alors ensuite, Anselm de Canterbury, de la théorie de la satisfaction, souvent on le lit de cette manière-là, la satisfaction vicaire du Christ, c'est-à-dire, nous allons voir ça évidemment en détail, le Christ a satisfait pour nous, pour notre péché, à une conception nouvelle de la liberté humaine. C'est peut-être ça aussi qu'on peut découvrir chez saint Anselm. Et ensuite, évidemment, je dirais la troisième étape de l'histoire doctrinale, c'est le grand débat entre Martin Luther d'un côté et le Concile de Trente de l'autre côté. Et là aussi, il y a au fond une question nouvelle qui émerge, qui dépasse les débats doctrinaux. C'est la notion d'expérience. Peut-on expérimenter le salut ? C'est ça, au fond, à mon avis, la grande question qui est derrière, en deçà, et qui est commun, au fond, à la fois à Luther et au Concile de Trente. Et ensuite vient la dernière étape jusqu'à maintenant, c'est la Constitution Gaudium et Spes du Concile Vatican II, qui introduit de nouveau une nouvelle insistance, qui est la nôtre aujourd'hui, inscrire le salut dans l'histoire de l'humanité. Ce qui m'a conduit la dernière fois vers le modèle généalogique, vous vous rappelez. Et je terminerai ce chapitre par une sorte de bilan, les grands clivages de la sotériologie contemporaine appellent à préciser le sens et la signification pastorale de l'évangile du salut. Qu'est-ce que c'est finalement le salut ? Que peut-on dire de ça aujourd'hui dans une perspective anthropologique. Voilà donc cette toute première partie. Donc tout de suite le premier chapitre pour un élargissement du champ biblique et anthropologique de la sotériologie contemporaine. Et on peut aller ici au début relativement vite, en particulier pour ceux qui ont suivi le cours de christologie, parce qu'évidemment c'est le point de jonction. Et j'avais déjà dans mon cours de christologie, grosso modo, présenter au moins ce qui se trouve sur la première et la deuxième page, 27 et 28. Mais il faut évidemment le reprendre ici. Si vous voulez, il y a un noyau dans le Nouveau Testament, indépassable et qui dit la spécificité de la foi chrétienne et qui concerne le rapport entre le Christ et les chrétiens que nous sommes, c'est le pour nous. Mais évidemment, je dirais avec la question, qu'est-ce que ça signifie ? Et vous avez déjà, donc, autour de ce noyau extrêmement simple, dans le Nouveau Testament, un élargissement pour nous, pour nos péchés. Donc, s'introduit ici la notion et le vocabulaire du péché, qui est évidemment un vocabulaire vétérotestamentaire et aussi nouveau néotestamentaire, et positivement, pour notre salut. Et c'est ce terme, vous rappelez, que le credo a retenu, le symbole de Nicée-Constantinople, pour nous et pour notre salut. Pour nous et pour notre salut. Donc le pour nous est global et le pour notre salut établit, si vous voulez, ce type de relation. Donc la visée eschatologique. Alors je vous donne tout de suite ici les trois références essentielles qui forment ce noyau, donc Galates 22, « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré », on va revenir à ce terme, la livraison, il s'est livré, il s'est donné, le terme tradition vient de là, il s'est livré pour ma, hyper, en grec. Et dans la première lettre de Pierre, vous trouvez cela de manière collective, le Christ a souffert pour vous. Voilà la formule de foi la plus simple, qui dit l'identité du Christ. Alors ensuite viennent les deux explicitations, pour nos péchés, Galates toujours, 1, 3, 4, Jésus-Christ qui s'est livré pour nos péchés. Pour nos péchés. Et la deuxième explicitation, pour notre salut, Alors, on le trouve notamment sous une forme encore un peu plus sophistiquée dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, verset 9. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, qui l'écoutent, vous savez, dans l'obéissance, il y a surtout cette connotation, c'est le propre du disciple, qui ouvre l'oreille, qui l'écoute, cause du salut éternel, aitia en grec, cause du salut éternel. Voilà, donc ça précise le pour. Alors, si vous voulez, il y a une double difficulté que je signale ici tout de suite et qui nous conduit déjà vers le problème de l'élargissement. Il y a évidemment ici une tentation, pas ici dans l'Écriture, mais je veux dire dans la théologie ultérieure, au fond de concentrer l'existence du Christ dans l'acte ultime qui est sa mort. Est-ce qu'on peut faire ça? Voilà. Ce qu'il ne faut pas élargir, si vous voulez, ce que font ensuite évidemment les récits évangéliques, c'est-à-dire à l'ensemble de l'itinéraire de Jésus. Ça c'est, si vous voulez, une première difficulté. Voilà. L'actus Christi réduit, c'est l'acte, son être comme mission, pourrait-on dire, pour nous, réduit, concentré uniquement dans la mort. Et alors, deuxième problème, plus difficile, plus grave aussi, le pour peut avoir plusieurs significations et qui donne au fond des sotériologies dans la tradition qui sont très différentes. Alors, vous pouvez traduire le pour d'abord à la place. À la place. Il a vécu tout ça à notre place. Ce que nous ne pouvions pas vivre, il l'a fait à notre place. Ce qu'on appelle aussi la théorie de la substitution. Il s'est substitué à nous, en quelque sorte. Et voyez bien, ça pose déjà quelques problèmes à propos de ce qu'est la liberté humaine. De quoi est-elle capable, ou finalement est-elle incapable, ultimement? Avec Pélage, ça va, et Augustin, ça va sauter à la figure, si je puis dire, de l'Église du 4e, 5e siècle. Donc, à la place de... Mais à l'autre bout, on peut traduire aussi le pour en solidarité avec. Alors, d'une certaine manière, si vous traduisez de cette manière-là, le Christ a vécu tout ce qu'il a vécu pour nous, c'est-à-dire en solidarité avec nous, vous réduisez finalement, vous voyez, je donne déjà mon vocabulaire, vous le réduisez, ou c'est le procès qu'on peut faire à cette traduction, à une exemplarité. D'une manière exemplaire, il a vécu cela. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant pour dire ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi, lui qui s'est livré pour moi, voilà. Alors, il y a une troisième encore traduction qui est beaucoup utilisée aujourd'hui, évidemment, en notre faveur. En notre faveur, qui introduit évidemment le vocabulaire du don. Livré, voilà. Il a vécu tout ça en notre faveur. Voyez, on laisse d'une certaine manière ici encore en suspense la question de quoi sommes-nous capables, oui ou non, et de quoi est fait notre liberté. Finalement, est-ce que nous sommes capables de vivre un don de nous-mêmes? C'est pas si sûr que ça. On donne toujours des choses, quelque chose ou une partie de soi-même. Alors nous disons évidemment à propos de Dieu, il s'est livré lui-même, l'autorévélation, l'autocommunication. Dieu s'est totalement donné à l'être humain. Voilà, donc vous voyez déjà un peu, ça c'est le deuxième problème. Alors sur la base, pour commencer maintenant déjà l'élargissement, sur la base de ce noyau, le Nouveau Testament a forgé plusieurs langages thématiques, ou mieux encore, schèmes, pour expliciter, alors là je souligne maintenant le processus du salut, parce qu'évidemment il s'agit d'une relation. Il s'agit d'une relation entre son itinéraire et l'itinéraire de l'Église, et du même coup d'une autre. Donc processus. Et on peut facilement adopter, ça a été fait un certain nombre de fois, moi je le fais un peu à ma manière, un schéma de communication. Donc vous voyez, l'acte on regarde le processus. C'est pour ça qu'il y a les petits points. À partir de l'acte de donner et de livrer. Voilà. Ensuite, pour nous, en notre faveur, en échange avec nous, à notre place, etc. Et on regarde ensuite le résultat qu'on appelle souvent salut, voyez. C'est le terme englobant. Alors, si vous lisez le texte de cette manière-là, alors vous avez ici un certain nombre de citations. Le Père livre son propre Fils et nous donne tout avec lui. Donc là, le Père est le sujet. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, donc qui a fait ce qu'il n'a pas demandé finalement à Abraham de faire avec Isaac. Il faut comprendre ça. C'est ça qu'il y a derrière ce terme. Le Père, voilà, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Vous voyez, formule globale, il n'y a pas de question de péché ni de salut. Comme avec lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment avec son Fils ne nous donnerait-il pas tout? Vous voyez, c'est radicalement positif, là. Radicalement positif. Dieu nous donne tout avec son Fils. Magnifique cette formule, on ne peut pas dire mieux. Hein. Alors, le Fils, maintenant je vais du côté du Fils, se laisse faire, mais chez le Fils, il y a les deux, si vous voulez. Il se laisse faire et se livre lui-même. C'est-à-dire, son acte est précédé toujours par une passivité radicale, ce qu'on appelle l'obéissance du Fils. Voilà. Jésus leur dit, le Fils de l'homme va être livré. Va être livré. Donc vous avez là le passif, n'est-ce pas? Il va être livré. Et ensuite l'actif, dans Jean 10, 17, mais aussi en Galates, le texte que je viens déjà citer, hein, il s'est livré pour nos péchés. Je me dessaisis de ma vie pour la reprendre ensuite. Alors voyez là, on va jusqu'au bout finalement de l'acte même du Christ. Qui lui se dessaisit et se reprend ensuite sa vie. Il est en même temps, alors comment dire cela? Vous voyez, maintenant vont intervenir et déjà les métaphores. Il est en même temps, passivité, activité, l'agneau et le prêtre. L'agneau et le prêtre, les deux images. Combien plus, alors l'agneau évidemment, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, est-ce que ça vient avec une question derrière de l'agneau pascal de l'Exode? Ou est-ce que c'est, il n'ouvre pas la bouche, le quatrième, comme un agneau qui va chez son tondeur? Vous vous rappelez de ça, quatrième chant du serviteur, qui est une image très radicale, non pas sacrificielle, comme dans l'Exode, mais de non-violence absolue. Voilà. Et le prêtre, Hébreux 14, combien plus le sang du Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans tâche. Alors là, évidemment, on est plutôt dans le langage sacrificiel. Une victime sans tâche. Alors, vous avez remarqué, la symbolique du sang est tout à fait décisive. Le sang qui expire, qui justifie, je vous donne les références, qui purifie, les trois termes, voilà, qui expie, qui justifie, qui purifie, et la nouvelle alliance en mon sang, en mon sang. Ce qui est absolument remarquable, n'est-ce pas, dans l'institution de l'Eucharistie, de la scène, et dans ce texte 1 Corinthiens 11, si vous voulez, je dis, les Juifs n'ont pas le droit de toucher le sang. Vous voyez, c'est tout le problème du Lévitique. Alors là, on mange, on boit le sang. Il n'y a pas de question de pureté et d'impureté ici. Alors ça, c'est, si vous voulez, l'acte de se donner et de se livrer ou de se laisser livrer. Alors maintenant, le pour nous, en notre faveur et en échange avec nous. Alors, vous avez évidemment ces formules surprenantes. Celui qui n'avait pas connu le péché, il, alors, avec un grand I, c'est Dieu, hein, il l'a pour nous identifié au péché. Donc, en notre faveur, et je ne l'ai pas encore nommé, apparaît ici quelque chose de nouveau, en échange avec nous, ce qui deviendra le magnifique concept, l'échange admirable. l'échange admirable. L'échange de place, vous voyez, l'échange de place, voilà. Vous laissez la place à quelqu'un qui vous prend la vôtre. Alors, c'est pas la substitution, il y a peut-être quand même quelque chose de la substitution, on va y revenir, c'est une très grosse question. Alors, Christ a payé, maintenant c'est le langage de l'argent, n'est-ce pas, du prix. Christ a payé pour nous libérer de la malédiction de la loi, devenant lui-même malédiction pour nous. Alors là encore, on a quelque chose de l'échange. Il est devenu pour nous malédiction. Pourquoi malédiction de la loi? Parce que si je ne l'accomplis pas, je n'hérite pas la bénédiction, mais la malédiction. Si je connais la loi et je ne l'accomplis pas. Alors, tout le problème est là. On va y revenir dans quelques instants. Alors, 2 Corinthiens 8:9. Christ pour vous, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour vous enrichir de sa pauvreté. Vous voyez, vous avez toujours la même structure de l'échange. Il s'est fait pauvre pour vous enrichir de sa pauvreté. Alors là, apparemment, la pauvreté devient une richesse. La pauvreté devient une sacrée richesse. Heureux ceux, voilà, les pauvres en esprit. Et là, on retrouve d'une autre manière. Alors, la symbolique du sang revient. Et se lit ici, n'est-ce pas, la symbolique du sang, du rachat et du prix à payer pour la rançon, et de la rançon. Vous voyez, un autre vocabulaire encore. En envoyant son propre fils dans la condition de notre chair de péché, alors comment traduire la formule suivante? Romains 8, 3, vous voyez, pour les dogmaticiens c'est difficile, parce qu'ils sont livrés ici aux traductions des exégètes. Voilà. À cause du péché, la Top traduit de cette manière-là. À cause du péché, il a envoyé son propre fils dans la condition de notre chair. Alors, en sacrifice pour le péché, au sujet du péché, traduisent certains, ou en vue du péché. En tout cas, vous voyez, il y a le pour ici. Il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice exigée par la loi soit accomplie en nous, qui ne marchons pas sous l'empire de la chair, mais de l'esprit. Et d'autres textes encore. L'agneau qui soulève et enlève, aireïn en grec, il y a les deux, n'est-ce pas? Agnostei qui tollis, oui. Qui soulève le péché, qui le porte et qui l'enlève, le péché du monde, voilà, c'est nos souffrances qu'il portait. Voilà, donc ça c'est la référence de nouveau au quatrième chant du serviteur. Et on a à l'arrière-plan peut-être le bouc émissaire, seule thématique à laquelle René Girard s'est intéressé. Donc cette libération, donc la libération expliquée ici par la symbolique du sang, du rachat. Alors là, on est très sensible à ça, évidemment. Je dis, combien d'argent la France met-elle pour racheter tel ou tel otage? Vous voyez, c'est ça, au fond. C'est une immense actualité, le vocabulaire du rachat. On l'entend plus, n'est-ce pas? Donc le prix à payer, ou la rançon à payer. Donc c'est un langage dans une situation de violence où quelqu'un a été pris en otage et il faut payer pour lui. Donc déjà dans le Nouveau Testament, vous avez ce phénomène extraordinaire qu'on utilise. Vous rappelez, conversion et déconversion. On utilise des langages humains de relation, toujours, pour parler de la relation entre Dieu et l'homme. Et là, évidemment, la déconversion peut s'y introduire. Donc cette libération a coûté cher. Quelqu'un a payé le prix de votre rachat. Première lettre aux Corinthiens. Pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Vous voyez, c'est une formule qui revient à plusieurs endroits, à la fois dans les synoptiques et aussi chez Paul. Et maintenant, le résultat. Alors là, vous avez les grands concepts de la tradition. Justifié. Alors, on sait ce que c'est. C'est-à-dire, quelqu'un vous attaque verbalement. Vous vous justifiez. Vous vous justifiez. Voilà. Alors, heureux celui qui ne se justifie pas. qui n'a pas besoin de se justifier. Voilà. Et surtout, devant Dieu, personne n'a plus besoin de se justifier. Voilà. La justification par la foi seule. Justifier, réconcilier. Alors, voyez, sauver, ce n'est que dans les marges du Nouveau Testament que sauver est utilisé au présent. Le salut, c'est pour la fin. Mais nous avons les arts déjà, pour le moment. Donc, c'est l'orientation, sauver en espérance. Alors, le langage, évidemment, de la libération, libération de l'esclavage du péché, de la soumission aux éléments du monde, c'est l'idolâtrie, l'argent, etc., du pouvoir des ténèbres, du pouvoir de la loi du péché et de la mort, de la colère qui vient, voilà. Et jusqu'en allant à la destruction, chez Jean, des œuvres du diable. Des œuvres du diable. Voilà, donc, une richesse incroyable de vocabulaire. Alors, positivement, maintenant, la réception de l'esprit de filiation avec l'accès à Dieu. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie en nous, n'est-ce pas, sous-entendu, Abba, Père, Papa. Tu n'es donc plus esclave, mais fils et fille. Et comme fils et fille, tu es aussi héritier. C'est là l'œuvre de Dieu. Donc, voyez, l'héritage, recevoir toute la création en héritage. Et ultimement, et c'est le dernier mot, et qui récapitule tout, c'est-à-dire le salut, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. L'épître aux Romains, évidemment, et la première lettre de Jean. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Qui nous séparera, voilà le salut, de l'amour du Christ? Lui, alors c'est Dieu qui parle, qui n'a pas épargné son propre Fils, voilà, n'a-t-il pas livré tout entre nos mains avec lui? J'ai déjà cité ce texte. Tout est donné. Voilà, si vous voulez, je dirais, à partir du noyau, c'était donc mon deuxième point, ici, à partir du noyau, la richesse, au fond, je dirais, notamment de la littérature paulinienne, johannique, mais pas uniquement, hébreu, et aussi les synoptiques, au fond, de décrire le processus qui se cache derrière le pour nous, pour notre péché, pour notre salut, positivement et négativement. Alors, dernier point ici d'abord, le désir de systématisation. Vous voyez, moi je n'ai pas systématisé ici encore, sauf de donner un petit schéma de communication pour regrouper au fond les affaires. Mais évidemment, le désir de systématisation, anthropologie, a toujours existé dans l'Église, depuis Saint-Irénée finalement, on pourrait dire cela. Il est légitime de vouloir faire une sotériologie, mais le risque, et nous en sommes peut-être davantage conscients aujourd'hui, grâce à la recherche historique, grâce à une meilleure connaissance de l'histoire de la sotériologie, le risque, c'est d'absolutiser un point de vue. Un point de vue. Par exemple, chez saint Anselme, alors, j'ai déjà dit tout à l'heure chez saint Anselme, il est plus grand que ce qu'on en a fait. Il faut bien le dire. Et j'espère pouvoir vous le montrer. Il est plus grand, évidemment, que ce que l'on en a fait. Mais il y a un peu une tendance quand même de comprendre la sotériologie à partir de la première thématique. Et voyez, le deuxième point, c'est-à-dire, c'est au fond chez saint Anselme, dans le deuxième point, donc la page précédente, l'acte de se donner et de se livrer, le Fils se laisse faire et se livrer lui-même, c'est-à-dire on va vers le sacrificiel, vers le se livrer quand même. C'est le vocabulaire du sacrifice qui prend ici, je dirais, un certain dessus, le motif sacrificiel, et c'est à partir de ce point qu'il interprète évidemment le reste du schéma communicationnel que je viens de vous présenter. À la page suivante et sur celle-ci. Alors, chez Luther, on a évidemment la tendance, et même plus que la tendance, l'ensemble de la rédemption est compris à partir de la deuxième thématique, c'est-à-dire l'idée de l'échange, de place, et poussé jusqu'à l'idée de substitution, Et alors ça a des raisons, on va y venir. Pour quelles raisons il a fait ça? Il a un émule catholique extrêmement important, médiatisé par, par le grand, très grand Karl Barth, c'est Hans-Urs von Balthasar, c'est-à-dire qui lui aussi, je dirais, va plutôt dans le sens d'une théorie de la substitution. Donc on trouvera à la fin de, cette partie le problème de l'équilibre et des raisons. Ça sera le dernier chapitre de cette partie que j'ai déjà annoncé. Alors évidemment, c'est l'intérêt œcuménique aujourd'hui qui nous conduit à nous rendre conscients de ces risques d'absolutisation de point de vue, c'est-à-dire de, systématisation unilatérale. Et vous voyez, j'y ai déjà fait allusion tout à fait au début, à la fin du premier chapitre, à la page 11. Vous pourrez y revenir, c'est-à-dire on peut relire l'histoire à partir d'Augustin, Luther, Trent et jusqu'à Vatican II dans une perspective purement confessionnelle, confessionnaliste. Mais on peut aussi, ce qui est mon souci, de relire cette histoire d'une manière œcuménique. Et donc, c'est ça que j'introduis déjà ici, c'est-à-dire une capacité de pondérer les points de vue qui risquent de s'absolutiser. En vue d'une, œcuménicité catholique ou d'une catholicité œcuménique. Alors, il y a un lien intime, c'est l'autre versant maintenant du problème, entre la polarisation confessionnelle de la sotériologie d'un côté, une certaine réduction du dossier biblique aux trois thématiques développées ici. Donc les points plus hauts, 1, 2 et 3, l'acte de donner et de se livrer, pour nous, et le résultat. Et de ne prendre le processus du salut que à partir finalement de la mort et de la résurrection du Christ, à partir du mystère pascal. C'est à cet endroit-là que doit maintenant intervenir, ce sera la suite, l'élargissement du champ biblique et anthropologique. Et donc il y a deux points, si vous voulez, qui vont intervenir maintenant ici, d'un point de vue formel d'abord. De rétablir les distinctions entre les trois temps de la tradition. C'est-à-dire l'itinéraire de Jésus de Nazareth précédé par l'existence des prophètes. Il a parlé par les prophètes. Et donc, vous voyez, ce sera le point numéro un, qui va suivre l'existence éthique des prophètes et de Jésus. Et vous allez voir pourquoi on entre par la question éthique. Ça, c'est déjà une question d'actualité. Et ensuite, deuxième temps, on a appelé ça, je dirais, à Vatican II, les tria tempora traditionis, les trois temps de la tradition. Donc Jésus et son enracinement dans sa judaïté, on ne l'a pas dit encore comme ça à Vatican II, discrètement, mais quand même, c'est présent. Ensuite, je dirais, donc, avec le récit de l'humanité de Jésus, ensuite vient, si vous voulez, je dirais, le temps apostolique. Alors, tout ce que je viens de vous présenter, évidemment, l'acte de donner et de se livrer pour nous, et le résultat, c'est le deuxième temps, c'est l'interprétation à partir de la résurrection de l'œuvre du salut. Et ensuite, le troisième temps, c'est évidemment le temps symbolique, c'est-à-dire l'inscription de ça dans une règle symbolique, les symboles baptismaux, etc., qui vont aboutir finalement au symbole de Nicée-Constantinople. Donc il s'agit de rétablir les trois temps dans leur profondeur, et du coup, comment dire, le symbole de Nicée-Constantinople n'est pas le point de départ Vous rappelez, dans le premier chapitre, j'avais déjà dit, quelle est la place de l'homme dans le symbole, première question, et deuxièmement, quelle est la place de l'homme dans le symbole, du symbole, l'homme du symbole dans l'histoire culturelle de l'humanité. Donc, il faut lire le symbole comme règle de l'interprétation des Écritures, comme règle. Rétablir toute la richesse des Écritures, interprétée en fonction de cette règle, mais réinterprétée en fonction nouvelle des données d'une anthropologie et aujourd'hui d'une anthropologie de la corporéité, comme je l'ai présenté dans le troisième chapitre de la partie introductive. Donc, si vous voulez, ça c'est d'un point de vue formel, je dirais l'axe de notre réflexion, de notre travail, hein, en toute rigueur. Alors, la recherche contemporaine apporte une triple nouveauté. Première nouveauté, je m'arrête un peu, n'est-ce pas ? Je viens déjà de le dire. Jésus, homme, a été juif. Et donc, lecteur des Écritures de son peuple. Ce que nous appelons, nous, l'Ancien Testament, dans les canons des Écritures. Et donc, nous redécouvrons à travers les recherches historiques l'existence et l'enseignement éthique de Jésus dans la plus authentique tradition prophétique. Et c'est, entre autres, Meyer qui a montré ça, c'est-à-dire les figures d'identification Élie et Élisée. Pensez à Luc 4, par exemple, Élie et Élisée. Donc ça, c'est, si vous voulez, une première chose hein, qu'il faut rétablir, et d'où donc le premier point, l'existence éthique des prophètes et de Jésus. Alors ensuite, je dirais, je reviens à mon risque de tout à l'heure, le risque de la sotériologie de se restreindre au mystère de la mort et de la résurrection du Christ pour nous. Toute la vie de Jésus est constitutive de notre rédemption. C'est ça qu'il faut rétablir. Et c'est là où il faut introduire une distinction, je dirais, qui est décisive dans les récits évangéliques et chez saint Jean, c'est la notion de l'heure, aura. L'heure a une grande importance dans la vie de Jésus. Donc, petite invitation de regarder ce terme un peu dans une concordance. L'heure de la mort, justement, qui en raison de son anticipation, marque profondément la temporalité de Jésus. Évidemment, les annonces de la Passion, donc il y a un problème historique derrière, que je traite en christologie, mais pas ici, mais la temporalité de l'itinéraire de Jésus est évidemment attirée par ce moment ultime de l'heure. Mon heure n'est pas encore venue. Et ce n'est pas uniquement joannique, cette affaire-là. Vous voyez, dire anticipation, c'est une manière à la fois de prendre en compte que le mystère pascal est central, mais que le mystère pascal dans l'itinéraire de Jésus ne se comprend que si on, ultimement, si on a tout son itinéraire, tout son itinéraire. Et c'est la raison d'ailleurs sans doute pour laquelle on a écrit les évangiles, qui sont relativement tardives par rapport à la figure paulinienne. Alors, regardez un peu les textes, voilà, Marc. Le temps, kairos, alors c'est une autre manière de dire l'heure. Le temps est accompli et le règne de Dieu s'approche. Marc 14, il priait que si possible, cette heure passait loin de lui. Là, il vient quand même aura. Simon, tu dors, tu n'as pas eu la force de veiller une heure. Donc, vous voyez, on est proche de cela. L'heure est venue, voici que le Fils de l'homme est livré. Le premier des trois synoptiques. Voilà. Luc 22. Alors, l'heure, Luc introduit quelque chose ici qu'on n'attend pas tellement immédiatement, si on ne connaît pas très bien Luc, mais qui est là depuis le chapitre 4. Les ténèbres. C'est l'heure des ténèbres. Voilà. Et Jean, voilà, mon heure n'est pas encore venue, elle est venue l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. Magnifique formule de 13.1, avant la fête de la Pâque, Jésus sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père. Et ensuite la prière dite sacerdotale, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Vous voyez, vous avez donc l'ensemble du texte, cette sorte d'anticipation et d'orientation qui caractérise la temporalité de Jésus. Donc, les deux commentaires, l'heure signifie la concentration ultime, passage du temps vers l'éternité, pourrait-on dire, de manière un peu imprudente et rapide, du mystère de la rédemption. Du mystère de la rédemption. Mais cette réalité dernière ne doit pas faire oublier ce que Dietrich Bonhoeffer, dans ses lettres, on traduit « résistance et soumission », c'est pas très bien comme traduction, « résistance et abandon », c'est ça, littéralement. Dans ses lettres de prison, en 44, appelait, n'est-ce pas, les réalités avant-dernières. Les réalités avant-dernières. Honorer la totalité du récit de la vie de Jésus, c'est la seule manière de repérer le passage, c'est ça l'enjeu, de son existence éthique vers l'expérience sotériologique. Éthique, salut. Vous rappelez, c'était mon problème principal, le premier que je vous ai proposé dans l'introduction, dans la première approche, chapitre 2, point 2, c'est-à-dire l'avancée de l'éthique dans nos sociétés contemporaines et l'érosion de la sotériologie et de l'expérience du péché. Donc si j'aborde les questions telles que je le fais maintenant, voyez, c'est en raison de cela. C'est-à-dire à partir de l'éthique, de montrer comment émerge à travers une crise, finalement, la question du salut. Une crise de l'éthique. Alors, premier point, l'existence éthique des prophètes et de Jésus. Alors, un point d'introduction, d'abord. Alors, quel est le concept clé de l'existence éthique? Évidemment, c'est le concept de justice. De justice, qui implique le concept de loi. Et qui vous montre déjà ici, vous voyez, qu'il y a un peu une petite erreur de perspective parfois dans l'enseignement quand on sépare trop d'un côté l'anthropologie théologique et de l'autre côté l'éthique théologique. Les deux sont intimement liés dans leur noyau même, dans leur source même, dans leur source même. Nous allons le voir. Alors, la justice, c'est évidemment la deuxième table de la loi qui porte... Je l'ai développé dès le départ, première heure du cours, sur le jeu de relations entre les hommes. L'homme à lui-même, voilà, entre les hommes, de l'homme à lui-même, du peuple aux nations, de l'homme à la nature. Vous vous rappelez quand j'ai polémiqué un tout petit peu gentiment contre une ontologie de la substance en parlant d'une ontologie de la relation. La relation est qualifiée d'emblée dans la Bible par la justice. Par la justice, d'emblée. Cette deuxième table se retrouve évidemment dans les antithèses du sermon sur la montagne. « Car je vous le dis, dit le Christ du sermon, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Vous voyez, toute la problématique est déjà ici, c'est-à-dire justice est quelque part au sein même de la justice un excès. Un excès, pour utiliser ce terme de saint Thomas, excessus, un excès, un dépassement, voilà, un dépassement. L'enjeu ultime de la justice, pourquoi excès? C'est la vie et la mort. C'est la vie et la mort, vous voyez, cette anticipation qu'on a dans l'itinéraire de Jésus. Le concept central de l'anthropologie est celle de la vie, je l'ai dit dès le départ. Le logos n'apparaît pas ici, si vous voulez, je dirais, sous sa forme originelle, mais on pourrait dire il apparaît ici sous la forme de la loi et de la justice. C'est une forme de logos, d'ordre, voyez. Alors, la préférence principale derrière ce texte, c'est le décalogue et son interprétation par le Deutéronome. Donc, il s'agit du texte Deutéronome 5, j'ai oublié ici la référence, 32 suivant. Je vous lis. « Vous veillerez à agir comme vous l'a ordonné le Seigneur votre Dieu, sans vous écarter ni à droite ni à gauche. » Donc, il s'agit d'une voie, d'un itinéraire. N'interprétez pas ça en sens politique du terme, n'est-ce pas? Mais c'est un chemin, voyez, très, une métaphore extrêmement simple. Vous marcherez toujours sur le chemin, quel chemin? Que le Seigneur votre Dieu vous a prescrit, afin que vous restiez en vie. En vie, donc vous voyez le but de la justice et donc de ce jeu relationnel complexe que je viens de rappeler dans le point 1. Le but, c'est la vie. Pour que vous restiez en vie, que vous soyez heureux et que vous plongiez vos jours dans le pays, que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession. Donc ça, c'est la promesse. La promesse qui est attachée à la justice. Les deux concepts justice et vie sont donc, et ça c'est ça que je voudrais vous montrer, qui est le point essentiel à la fois dans la lecture au fond du Pentateuque, une lecture prophétique du Pentateuque, et dans la lecture de l'itinéraire de Jésus, les deux concepts justice et vie sont traversés par une expérience de crise. De crise. Donc, du coup, première partie, quelle est la structure de l'expérience éthique? Et ensuite, l'expérience de crise, point B. Et dès que j'ai dit crise, vous voyez, on est sur un chemin. Vous voyez, quand je suis sur mon vélo, je suis continuellement en crise, n'est-ce pas? Mais l'équilibre est tenu, voilà. Marcher, hein? Crise en ce sens-là, voyez, d'équilibre relatif par un déséquilibre vers un nouveau équilibre relatif. Voilà. C'est ça, là, le sens de la notion de crise. Ça peut être traumatique, parce qu'on peut tomber. Voilà. Évidemment, en marchant, on peut tomber. On peut tomber. Mais c'est ça la métaphore qui est derrière. Et donc, crise veut dire passage à l'histoire que cette crise implique. Donc, structure et histoire. Alors, les deux concepts, justice et vie, sont traversés par une expérience de crise qui se situe au cœur même de la tradition biblique des deux testaments. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a crise? C'est le passage du culte à l'éthique. C'est le rapport entre le culte et l'éthique. Le culte, c'est ça la crise, étant radicalement transformé par le principe éthique du culte. Ça, c'est le cœur du message des prophètes. Je m'expliquerai. Alors, c'est les deux points qui vont suivre, la structure de l'expérience. Alors, on peut se référer ici, évidemment, à l'école deutéronomiste, je le dis encore une fois, et aux prophètes. C'est-à-dire à l'émergence de l'unicité même de Dieu. Donc il faut réfléchir quelques instants à ce qu'implique cette inouïe révolution dans l'histoire de l'humanité à laquelle nous nous sommes habitués, que nous avons appelé parfois monothéisme, l'émergence de l'unicité de Dieu. Deutéronome 6, 4. Écoute, Israël. Il s'agit d'une écoute. Le Seigneur ton Dieu est l'unique. Et voyez, cette émergence de l'unicité de Dieu, je parle en termes d'émergence, c'est un peu, si vous voulez, je dirais, un vocabulaire d'historien ici, d'abord. Mais évidemment, théologiquement, théologalement, il s'agit ici de la révélation, l'unicité. C'est-à-dire, cette unicité dépasse radicalement le cercle cultuel des divinités sacrales de Canaan. C'est-à-dire, au fond, des divinités qui ont une fonction fondamentalement légitimatrice d'une manière de vivre. Du côté de l'homme, et c'est ça la révolution, surgit en même temps l'exigence de justice comme élément central du culte véritable qu'il doit rendre à Dieu. Autrement dit, les deux choses qui vont aboutir à l'unité du double commandement sont une seule chose, croire en Dieu unique et vivre éthiquement la justice. Vivre éthiquement la justice. Voilà cette sorte de révolution monothéiste qui s'introduit ici dans l'histoire religieuse de l'humanité. L'élément de justice, l'exigence de justice est l'élément central du culte véritable qu'il doit rendre à Dieu. Il faut aussi inverser la proposition. L'homme engagé dans l'accomplissement de la justice est simultanément affronté à une transformation radicale de son image de Dieu aux prises avec la figure éthique d'un Dieu qualifié comme juste. Dieu est juste. Alors, comment exemplifier ça? Deux exemples concrets, si vous voulez, pour donner un peu de chair maintenant à cette affirmation structurelle un peu théorique. J'ai dit d'abord le caractère dramatique, si vous voulez, de cette double transformation-conversion, notamment dans les psaumes. Je vous donne les deux exemples classiques, le psaume 14 et le psaume 23. Donc vous avez les pèlerins qui arrivent à Jérusalem, au seuil du temple, à la porte, et qui s'interrogent sur les conditions d'entrée. Qui a accès à l'Eucharistie? Je poursuis pas. Vous voyez, c'est toujours la même condition, la même question. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Entre parenthèses, moi personnellement, je trouve absolument absurde, en régime chrétien, la distinction entre communion spirituelle et communion eucharistique. Voilà. C'est mon avis. Il y a communion, il n'y en a pas. Alors évidemment, il y a une gradualité, évidemment, dans toutes nos existences, une pédagogie, évidemment. Voilà. Alors, revenons au sujet que nous n'avons pas quitté. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Qui habitera ta sainte montagne? Et voyez la réponse. Conduit vers l'ordre éthique, celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et magnifiquement et dit la vérité selon son cœur. Voyez, vous avez déjà ici cette concordance que l'apôtre Paul reprendra comme le cœur même du salut, entre la bouche et le cœur, la vérité selon son cœur. Point de mensonge était dans leur bouche. Voilà ce que dit l'Apocalypse des saints. Point de mensonge. Ce déplacement du cultuel vers l'éthique est d'une radicalité infinie en raison de l'altérité même de Dieu. Et maintenant vient, vous voyez cette phrase étonnante, le Seigneur votre Dieu. On est toujours dans le Deutéronome. Le Seigneur votre Dieu, donc bien sûr le Dieu de l'élection qui vous a choisi, vous le peuple. Votre Dieu. Et en même temps, le paradoxe, c'est ça la radicalité. Il ne fait exception de personne et ne se laisse pas corrompre par des présents. Vous voyez, ça c'est le culte cananéen. C'est lui qui fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger et qu'il donne pain et vêtements, auquel il donne pain et vêtements. Aimez l'étranger. Et maintenant vient la raison extraordinaire, car au pays d'Égypte, vous fûtes des étrangers. Vous voyez l'inversion qui se produit ici, l'inversion, l'appel à la mémoire, à l'expérience. Il y a déjà le temps ici. Donc l'exigence de la justice implique donc, je résume, la découverte qu'on a occupé soi-même la place d'autrui. Et ça, ça va devenir plus tard, évidemment, la question de l'échange de place que j'ai déjà évoqué. On a, si on a une bonne mémoire, déjà occupé la place d'autrui, du dernier sans doute, quel étranger, et qu'on pourra se retrouver en un jour à cette même place. Il s'agit donc de vivre, voilà l'ordre éthique, une permutation des désirs. Une capacité de se mettre à la place d'autrui sans quitter sa propre place, qu'on peut jamais quitter. La capacité de se mettre à la place d'autrui sans jamais quitter sa propre place. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent avec vous ou pour vous, faites-le vous-même pour eux. Toute la loi et les prophètes sont là. Voilà. Alors, je reviens un peu à ma formule. Ici, l'exigence éthique de la justice implique la découverte qu'on a occupé soi-même la place d'autrui, du dernier qu'est l'étranger, et qu'on pourra se retrouver un jour à cette même place, vivant alors une sorte de permutation des désirs, une inversion, une capacité de se mettre à la place d'autrui sans quitter sa propre place, l'homme juste manifeste la figure paradoxal d'un Dieu juste, qui, élisant quelqu'un qui doit renoncer à le séduire par des présents, accepte de l'imiter à l'infini sans faire exception de personne. Donc, croire en Dieu unique, être créé à son image et à sa ressemblance, c'est l'imiter à l'infini. Dieu ne faisant exception de personne, s'il élit quelqu'un ou un groupe, Abraham, et ensuite toute l'histoire de l'élection, c'est une élection en vue de, voilà. En vue de, c'est-à-dire pour figurer, donner figure à ce Dieu qui ne fait exception de personne. Et vous voyez, c'est extraordinaire l'œuvre de Luc. Vous allez lire chez vous chapitre 10. Acte 10, je vous lis peut-être quand même le début. On a le temps pour ça. Acte 10, 34-35, vous voyez, c'est la célèbre scène de Corneille. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, « Je me rends compte en vérité que Dieu est impartial et qu'en toute nation, quiconque le craint et pratique la justice trouve accueil auprès de lui. » Donc, vous voyez, c'est exactement la même chose. Pas de meilleur résumé, donc, au cœur même du Nouveau Testament, de cette existence éthique. Alors, j'ajoute ici que Jésus de Nazareth, c'est une lecture qu'on peut faire de son itinéraire, conduit cette conversion du culte jusqu'au bout. C'est le versant prophétique de son itinéraire, précisément. Cette conversion jamais achevée. Marc 7, le célèbre débat avec les pharisiens. « Ce peuple m'honore des lèvres, alors qu'il s'agit du cœur. Mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, car les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes d'hommes. » Donc un cœur proche de Dieu transforme, pour être en résumé, le culte en acte éthique par respect des préceptes de Dieu. Ce qui n'est pas du tout l'annulation du culte, mais c'est la transformation du culte, évidemment. Alors le passage central, c'est Marc 12, parallèle. On y trouve donc le double commandement avec l'ajout décisif. Il est unique et il n'y a pas d'autre que lui. Et l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, il s'agit de Dieu, de toute sa force, cœur, intelligence, force, et aimer son prochain comme soi-même, donc l'autre comme soi-même, vous avez là, évidemment, cette inversion possible d'échange de place, l'impartialité, cela vaut mieux que tous les holocaustes et sacrifices. La réponse de Jésus au scribe, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Voilà, il est 5 heures. Fais la pause et ensuite je vais vous montrer la mise en crise de cette expérience et induire ensuite une lecture de l'itinéraire de Jésus à partir de ça. Alors, dans un premier point, j'ai déployé ce qu'on peut appeler la structure de l'expérience éthique des prophètes et de Jésus, Jésus le poussant jusqu'au bout, donc ce lien intime, intrinsèque entre l'unicité de Dieu, son impartialité, sa justice radicale, et une existence éthique qui présuppose la capacité d'inversion qui est formalisée par la règle d'or. Alors maintenant, il faut prendre conscience, et c'est un peu le deuxième point tout à fait décisif, je dirais, pour bien saisir la spécificité, je dirais, jésuanique et chrétienne, de l'expérience éthique, c'est-à-dire la crise de cette expérience et le passage à l'histoire. Alors, si on regarde le monde sacral, n'est-ce pas, le monde des divinités cananéennes, etc., et ensuite, je dirais, ce qu'on pourrait appeler, je dirais, en Grèce, je dirais, le polythéisme, la justice passe par l'adhésion à l'ordre et à la règle d'un monde où, d'une manière ou d'une autre, il faudrait nuancer beaucoup ici, ce qu'il faut faire et ce qui est coïncide ultimement, de par la garantie des dieux. Voilà. La justice passée dans le monde sacral par l'adhésion à l'ordre et à la règle d'un monde censé coïncider absolument avec ce qu'il doit être, donc la vie bonne, voilà, et l'ordre du monde vous indique ce qui est bon, voilà. Cette justice devient, dans la tradition prophétique, problématique. Elle est dans un monde sacral de l'ordre d'une évidence, d'une adhésion tribale, pourrait-on dire, penser à Feuerbach, c'est-à-dire le sujet intégré dans un tout, comme il nous décrit cela, la justice devient problématique, elle passe désormais par le cœur humain. Et dire qu'elle passe par le cœur humain, dire qu'elle est devenue hautement problématique. Les chemins sinueux du cœur humain, selon les beaux mots de la Bible, et on a ces magnifiques méditations prophétiques et sapientielles sur la versalité du cœur humain, son caractère sinueux, ou, je dirais dans une autre terminologie, la justice passe par l'examen de la conscience. La conscience. Et le caractère problématique est aussi lié à l'idée de totalité, de tout. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même, qui indique donc, au fond, je dirais, le caractère infini de cette tâche. Le caractère infini de cette tâche. Je ne suis jamais quitte de mon frère. La dimension indéfinie de cette nouvelle interrogation critique, il faut bien appeler blessante, que l'altérité de Dieu et d'autrui introduit dans le cœur humain. Vous voyez, on pourrait presque dire, d'un point de vue simplement historique et sans faire intervenir encore, je dirais, le théologal ou le théologique, on pourrait dire, Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est cette interrogation blessante, critique, qui s'introduit à un moment donné de l'histoire dans les êtres humains et fait que l'altérité devient un lieu d'interrogation sans fin. D'interrogation sans fin. Voilà. Donc, ce lien, alors pensez à la version lucanienne du double commandement, j'ai dit avec la parabole du Samaritain. C'est-à-dire, l'inversion, vous la trouvez là aussi. Qui est mon prochain? C'est pas la question. De qui vais-je me rendre proche ici et maintenant? Est-ce que ici et maintenant j'ai les entrailles? Et je peux pas même le prévoir dans la parabole. Est-ce que j'ai les entrailles, le cœur, qui se laisse atteindre, blesser, voilà, par la présence de celui qui est à côté de moi? Vous voyez, ça c'est, je veux dire, une radicalité et qui n'est pas proprement jésuanique, mais qui est déjà prophétique, vous voyez, prophétique. Cette crise ou cette blessure se manifeste en même temps donc dans le renversement de la situation éthique, dans l'expérience de l'injustice. L'injustice, c'est-à-dire quand l'unicité absolue de Dieu est menacée par l'idolâtrie, son altérité, Et en même temps, l'altérité de l'autre. Donc, ce qu'on appelle l'oppression d'autrui. Donc, vous avez toutes les figures, l'orphelin, la veuve, l'étranger, qui ne sont plus respectés, qui sont expulsés, etc. Alors, voilà maintenant la formule centrale. S'impose à ce moment-là, avec une certaine évidence, l'expérience douloureuse, que l'accomplissement de la justice de Dieu est impossible à l'homme. Il ne peut imiter un Dieu juste qui ne fait exception de personne et n'attend pas de présent en retour. Vous voyez, ça, il y a une sorte d'aveu fondamental qui émerge avec force et qui n'est plus prophétique d'une certaine manière, qui est déjà jésuanique. Sorte d'impossibilité de l'être humain de pousser jusqu'au bout l'expérience éthique. Et apparaît alors, si vous voulez, je dirais, au cœur même de l'expérience éthique, on va avec force chez Matthieu d'une certaine manière, mais on le voit aussi chez Paul, chez tous les auteurs évidemment du Nouveau Testament, l'idée d'un excès, d'un plus, un plus. C'est-à-dire, l'expérience éthique ne peut pas être vécue uniquement comme accomplissement, entre guillemets, d'un certain nombre de, je dirais, de préceptes, vous voyez. Et une fois qu'on les a accomplis, c'est fini. Voilà. Non. C'est à la fois le cœur qui est radicalement interrogé, mais s'ajoute ici un élément fondamental, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler l'humilité ultérieurement. L'expérience d'une impossibilité, de quelque chose dans l'expérience éthique qui dépasse radicalement l'homme. Un excès. Vous voyez, c'est là, et je reviens pour la première fois ici maintenant au mot « salut », où je mets le salut entre guillemets. Mais voyez, je viens de l'approcher à partir de l'expérience éthique. Quelque chose de l'ordre du salut émerge ici et inscrit un axe historique dans la justice de Dieu, dans la justice. Alors donc, il y a la mémoire, il y a le présent et il y a la promesse. Voilà les trois temps. La mémoire, le présent et la promesse. D'abord la mémoire. Aimer l'étranger devient apparemment possible quand je garde en mémoire, quand je me rappelle que j'ai été dans la même situation que lui. Donc ça c'est de l'ordre du retour sur soi. Vous voyez, ça c'est la pointe de la parabole du serviteur impitoyable, terrible texte. Et les serviteurs sont tous pris de tristesse et vont voir le maître, parce que le maître a tout remis au serviteur et qui va ensuite, je dirais, voilà, mettre un autre serviteur dans la tour parce qu'il ne peut pas rembourser. Terrible ça. Mais la gratuité de cette justice surgit seulement. Alors ça, c'est la mémoire. C'est la mémoire. Mais maintenant le présent, la gratuité de cette justice surgit seulement au présent, dans la récurrence de l'injustice humaine. C'est finalement, je dirais, cet impossible devient possible, gratuitement, gratuitement. On verra comment ça se passe sur l'itinéraire de Jésus, gratuitement. Le plus qui se cache dans la justice de Dieu s'explicite alors comme miséricorde et fidélité pour ouvrir une attente. Dans une situation radicale de décréation ou d'injustice et d'expérience d'impossibilité, émerge subitement de manière gratuite, impossible. Voilà. Et ça ouvre une espérance. La promesse deutéronomiste de la circoncision du cœur, d'un cœur nouveau, traversé et travaillé à l'infini par le lien éthique entre Dieu et autrui. Donc la notion de la circoncision du cœur, un cœur nouveau. Voilà. Ça, c'est de l'ordre de l'attente. Et déjà dans la notion de cœur nouveau, on voit bien qu'il s'agit d'une création nouvelle, de quelque chose qui ne vient pas de l'homme, qui ne vient pas de son effort éthique, mais qui est de l'ordre de la gratuité. Alors je conclus, vous voyez, ce premier point, l'existence éthique des prophètes et de Jésus. Donc on peut dire, il y a au fond, aux deux Testament, une structure commune, qui nous aide, si vous voulez, à ne pas introduire des ruptures ici entre l'ancien et le nouveau, qui conduirait vers un marcionisme finalement. C'est-à-dire au sens où l'ancien, on n'en a plus besoin. Non, c'est le passage de l'un à l'autre qui est décisif. C'est la transformation, c'est le passage, la conversion qui est décisif. S'il n'y a pas d'ancien, il n'y a pas de nouveau. Le nouveau devient immédiatement ancien. Voilà. La tradition chrétienne reste menacée par cela. Voilà, donc il y a une structure commune. La justice indique un certain type de relation entre les êtres humains, donc la règle d'or, qui ne va nullement de soi. Elle implique donc la règle d'or, voyez, qu'on trouve déjà dans le Deutéronome, une dramatique qui rend toute vie, alors là il faudra peut-être mettre des virgules, pardonnez-moi, qui rend toute vie, virgule, attachée à elle, attachée à la règle d'or, problématique. Si je prends conscience de ce qu'implique la règle d'or et donc la justice, et ce jeu relationnel qui n'est pas formel entre les êtres et la nature, et entre les êtres, la nature et Dieu, alors il y a quelque chose de dramatique qui s'introduit dans l'existence humaine. Je ne dis pas de dramatisant ou de dramatique, on a dramatisé, mais l'existence humaine éthique est dramatique. Quand elle est liée à Dieu, alors on fait un pas de plus, le lien de justice entre Dieu et l'autre introduit dans l'homme un infini qui le suscite en sa totalité. Pas à moitié. Quand on croit en Dieu unique, c'est le tout de l'être humain et sa relationnalité qui est appelé, interpellé. L'homme, un infini, qui le suscite en sa totalité, tout ton cœur, toute ton intelligence, toute ta force. Cette totalité de l'homme, et là, vous voyez, je reviens au modèle généalogique, émerge, maintenant le terme que j'ai utilisé au début prend sens, émerge à travers l'infini d'un questionnement introduit par Dieu, le travail de Dieu en l'homme, Dieu entre guillemets ici. Vous voyez, on pourrait dire « Dieu c'est quoi ?» entre guillemets, oui, c'est ce travail critique, blessant, etc., qui s'introduit à un moment donné de l'histoire dans l'histoire de l'humanité, avec le filon prophétique, l'école deutéronomiste. Alors ça, si vous voulez, j'ai dit, une anthropologie profane peut parler comme ça, émerge. Les théologiques, évidemment, introduit ici l'acte de foi fondamental, voilà, la conversion. Alors, j'en viens maintenant au deuxième point, le récit de l'humanité de Jésus. Alors, on va d'abord regarder de près le préalable anthropologique de ce récit, et il est très net dans le Nouveau Testament, c'est le rapport entre Jésus et le Baptiste. Le rapport entre Jésus et le Baptiste. Là, vous avez, je dirais, le préalable anthropologique, prophétique, apocalyptique. Nous allons voir ce que ça signifie. Et c'est à partir de cela que va s'engager ce que j'appelle pour le moment le récit de l'humanité de Jésus, donc le point B, en plusieurs étapes ce récit. Alors d'abord, le préalable anthropologique, le cercle de Jean-Baptiste et l'apocalyptique. J.P. Meyer, Jesus a Marginal Jew, il a cette très belle expression pour caractériser la figure du Baptiste, le mentor de Jésus, le mentor. Donc, il semble être avéré que Jésus faisait partie de ce cercle du Baptiste. Est-ce qu'il a baptisé ou non? Évidemment, on le saura pas. Il y a les deux hypothèses dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'il aura lui-même baptisé? En tout cas, il fut baptisé. Et le Baptiste, évidemment, faisait partie, est déjà une dissidence, si je puis dire, par rapport à Qumran, sans doute. Oui. Donc ça, c'est un point de départ. Et c'est évidemment l'apocalyptique qui est la vision du monde qui est derrière. Donc vous avez beaucoup d'apocalypse aussi dans les grottes de Qumran, de textes. C'est-à-dire, on pourrait, pour faire très très bref, c'est une littérature de la crise, de crise et du jugement. C'est pour ça que ça nous intéresse ici, de crise. Et la crise dont je viens de parler, dans l'apocalypse, dans l'apocalyptique, on est en train de prendre conscience de cela. Cette prédication que se comprend aisément donc à la suite de la prédication, de la proclamation deutéronomiste. La crise éthique qui se révèle pendant l'exil comme une situation de malheur et de malédiction, l'exil comme une malédiction, comme la malédiction par excellence, le contraire de la bénédiction, se poursuit et devient finalement une situation permanente de jugement. Le peuple Israël est incapable, on peut la traduire de cette manière ça, de vivre à la hauteur de l'enseignement prophétique. Et évidemment, ça se manifeste, je dirais, c'est interprété, cette crise, de multiples manières, par les pharisiens, par les zélotes, d'une manière autre, par les gens de Qumran, les Esséniens, c'est des interprétations différentes. L'expérience douloureuse que l'accomplissement de la justice de Dieu est au moins de fait, impossible à l'homme. Et donc cette crise permanente a pour conséquence ou reflet l'expérience de l'occupation de la terre d'Israël par l'Empire romain, qui est l'impureté par excellence. La terre d'Israël est souillée. Et c'est le problème fondamental. Et au fond, je dirais, la crise éthique permanente, le jugement, est une manière d'interpréter cette occupation de manière théologique. C'est le résultat de l'impossible. C'est un jugement divin. Ça, c'est au moins la thèse de Qumran. Et donc, pour purifier la terre, il faut sortir de la terre, vivre dans un monastère séparé, radicalement séparé, ou la thèse du Baptiste, c'est-à-dire on est au bord du Jourdain, c'est-à-dire il faut revivre ce que l'Exode nous a fait vivre, la traversée, au bord du Jourdain, et les gens viennent se purifier. Tandis que la prédication deutéronomiste pouvait se référer à l'alliance de Dieu avec les pères, Abraham surtout, évidemment, pour fonder l'espérance en un agir nouveau de Dieu, donc cette idée d'un cœur nouveau, cette référence disparaît dans l'apocalyptique et dans le cercle du Baptiste. Voyez, il n'y a plus de référence ici à un passé, à une tradition qui porte en elle-même les germes d'un avenir. Ce que Dieu a promis à Abraham, il nous l'a encore promis et donc ça viendra. Donc cette référence ne marche plus. Pourquoi elle ne marche plus? Parce que la crise est devenue tellement radicale et récurrente qu'il ne suffit pas simplement de faire appel au passé pour engager un avenir. Vous voyez, vous avez chez Matthieu en particulier ces formules. Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadduciens venir à son baptême, il leur dit, agence de vipère, qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient? Donc la colère, c'est le jugement sur la terre d'Israël. Produisons du fruit qui témoigne de votre conversion et ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Donc vous voyez, cette référence disparaît. Car je vous dis, des pierres que voici, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Donc ce n'est pas la référence à la tradition qui vous sauvera. Voilà. La souveraineté de Dieu dans cette crise est telle, voilà, c'est à lui de voir. Déjà, la hache est prête à attaquer à la racine des arbres. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment dans un discours de jugement apocalyptique. Tous les éléments de la prédication apocalyptique du jugement sont réunis. Colère, la hache, l'absence de référence à la mémoire ou à la tradition. Donc, vous voyez, les trois temps dont j'ai parlé tout à l'heure, la mémoire de la sortie, le présent et l'ouverture vers le cœur nouveau. La crise éthique permanente, il faut souligner permanente, ne laisse qu'une porte ouverte. Selon le Baptiste, Dieu donne une dernière chance. Vous voyez, c'est une prédication d'une dernière chance pour produire du fruit qui témoigne de la conversion. Et vous voyez, c'est exactement là le point où on peut observer avec grande précision la mutation qu'introduit Jésus de Nazareth et pourquoi il s'est séparé du cercle du Baptiste. La séparation. Point où émerge sa propre humanité, proprement incomparable. Donc là, je reviens un peu au cours de Christologie. Humanité que nous sommes appelés à confesser, comportée intégralement par sa divinité, donc l'union hypostatique, etc. Mais évidemment, maintenant dans le cours, je reste sur l'anthropologie, je ne vais pas suivre ce fil christologique. Alors, comment expliciter ça? D'abord, premièrement, Jésus semble présupposer que les hommes vivent dans un collectif de malheur. Ou pour le dire d'une autre manière, dans la non-bénédiction. Alors, on a quelques textes chez Luc, c'est-à-dire dans une crise devenue récurrente. Par exemple, Luc 13, pensez-vous que ces Galiléens, vous voyez, c'est l'affaire des Galiléens et des 18 personnes sur lesquelles est tombée la tour de Chiloé. Connaissez ce texte. Croyez-vous, pensez-vous que ces Galiléens étaient des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Donc on a l'impression qu'il y a encore cette sorte de d'équivalence, vous voyez, de jugement et des faits. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Donc là, on a l'impression, évidemment, je dirais, on est dans une prédication à la manière du Baptiste, une sorte de d'équivalence entre ce qui arrive. Donc là, c'est des malheurs autres, c'est pas l'occupation de la terre d'Israël, mais c'est évidemment la tour qui tombe, n'est-ce pas, le 11 en septembre 2001, etc. Donc après, on conclut, c'est le jugement. Et on dit donc, convertissez-vous, il y a du pire sinon qui vous arrivez. Et on pourrait lire évidemment le début de l'épître aux Romains qui va venir dans la deuxième partie du cours avec force. aussi un peu de cette manière-là, 1 Corinthiens, 1 Romains 1, 18, 2, 20, où vient la notion de colère de Dieu. Vous voyez, elle vient là. Mais, voyez, maintenant le mais est décisif, c'est ça le point. La porte de sortie n'est pas l'offre d'une ultime occasion pour porter du fruit qui témoigne de la conversion. La porte est tout simplement ouverte. Et c'est aussi simple que ça. La porte est tout simplement ouverte. Non pas par la suppression de l'ordre éthique, mais par son repositionnement ou son dépassement. Son repositionnement ou son dépassement. Ce que Matthieu dira plus que. Donc, voyez, le mot conversion reçoit ici un sens nouveau. Un sens nouveau. C'est ça l'enjeu. Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Donc, vous voyez là, c'est Dieu le sujet. Le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Donc, cette nouvelle, toujours nouvelle, de bonté radicale. Donc, voyez, l'enjeu de l'itinéraire de Jésus de Nazareth est une réarticulation complète du royaume proche et de la conversion. C'est ça l'enjeu. La réarticulation, repositionnement de l'ordre éthique, c'est-à-dire une réorganisation du rapport entre l'eschatologie et l'éthique. Entre l'eschatologie et l'éthique. C'est-à-dire entre le salut de Dieu miséricordieux et sa justice. Vous voyez, j'y mets les trois choses en parallèle. Voilà. Donc là, c'est évidemment une petite référence à la session de rentrée, parce que bon, c'était un peu une des questions centrales quand même de la session de rentrée. Alors c'est, vous voyez, c'est à partir de ça qu'on va maintenant entrer dans le récit de l'itinéraire de Jésus, le récit de l'humanité de Jésus, son humanité unique, proprement incomparable. En quoi consiste cette humanité qui se déploie dans un récit, je l'aurais dit, à plusieurs étapes, orienté progressivement vers l'heure. Alors, la première étape, donc vous voyez, il y en a quatre. La première étape, en se séparant du Baptiste, Jésus n'annonce pas la colère qui vient, mais annonce et réalise par ses gestes la proximité du royaume qui vient. Voilà, c'est ça le début. Et il faut dire, alors pour préciser quelques points ici, cette proximité s'enracine dans sa propre expérience qu'on peut toucher chez les évangélistes, les historiens nous le montrent, qui se trouve sans doute exprimé au mieux dans Luc 10, 18. Jésus leur dit, donc vous voyez la célèbre séquence, l'envoi des 72, et au moment où ils reviennent, ils racontent ce qu'ils ont vécu, et il y a cette formule, Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel » comme l'éclair. Alors, vous avez ici une métaphorique apocalyptique. Donc, Jésus se situe parfaitement dans la même ligne au niveau de l'imaginaire, de l'imagination apocalyptique, l'image d'une lutte ultime entre Dieu et l'accusateur du genre humain depuis le début. Pensez au livre de Job, et il y a toute cette terminologie autour de Satan. C'est Saint Jean qui parle de l'accusateur depuis l'origine. Donc ce scénario est présupposé, mais ce que dit cette formule de Jésus, que cette lutte cette lutte est déjà décidée. Déjà décidée en faveur de l'homme. Le jugement a disparu parce qu'il n'y a plus d'accusateurs et d'accusations. Le jugement a disparu parce qu'il n'y a plus d'accusateurs et donc plus d'accusations. La porte est ouverte. Voilà. Il s'ensuit que la bonne nouvelle du règne de Dieu, tout proche, peut être annoncée. Vous voyez, c'est le corollaire. Pourquoi Jésus peut-il annoncer que vraiment le règne de Dieu maintenant s'est approché? Parce que cette lutte, voyez, dans laquelle se situe encore le Baptiste, est décidée. Donc on voit bien, l'image de Dieu a totalement muté ici. Il n'y a plus d'accusateur, il n'y a plus d'accusation. Alors, il y a une précision encore chez Luc qui est apportée, que les exégètes mettent beaucoup en valeur, 11-20. Si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, magnifique métaphore aussi, vous voyez, parce que le doigt de Dieu, et on va le toucher de Jésus, n'est-ce pas? Le toucher de Jésus, il touche les gens. Alors le règne de Dieu vient de vous atteindre. C'est encore plus radical que cette approchée, eftazen. Donc une proximité effective, c'est une formule plus forte que engiken, c'est approcher. Donc il faut bien traduire que, au fond, le jugement et la lutte sont son objet. Le règne atteint effectivement l'humanité. Ce qui ne veut pas dire que l'humanité est à l'heure du rendez-vous et que la lutte ne continue pas. Mais du point de vue de Dieu, c'est ça l'expérience de Jésus, c'est décidé. Et ça, c'est le cœur du Nouveau Testament, jusque dans l'Apocalypse. Quelques aspects de cette atteinte. L'absence du jugement n'est que l'envers de la miséricorde et qui est le cœur de l'Évangile. Donc là encore, Luc, vous voyez, je suis beaucoup ici, Luc 15, les paraboles de la miséricorde et en particulier cette magnifique figure de Zachée, vous voyez, de Zachée. Aujourd'hui, l'aujourd'hui lucanien, je dois demeurer dans ta maison. Voilà. Cette miséricorde atteint l'homme très concrètement. Vous voyez, c'est pas une miséricorde abstraite, c'est-à-dire un langage, je dirais, qui dit, voilà, miséricorde dans telle ou telle condition. Mais c'est ici et maintenant, dans telle rencontre, sachez, voilà, ici. Concrètement, ici et maintenant. Donc la nécessité du récit, elle vient de là. Vous voyez, le récit, c'est pas une idée, une invention comme ça. Le récit, dans le Nouveau Testament, a son fondement dans la concrétude absolue des événements de salut. On ne peut que les raconter, le récit, par des paroles qui sont des gestes. Ça, c'est très important. Les béatitudes, les heureux, les paraboles, ce sont toujours des paroles qui sont aussi des gestes et des gestes qui sont des paroles. Puisque la venue du règne est un événement, donc voilà le terme technique, chez Luc, c'est décisif, il commence son évangile, les événements qui se sont passés parmi nous, c'est les premiers mots, on comprend que ces événements ne sont pas séparables de celui qui en fait l'expérience d'une manière unique. Donc, je vis Satan tomber, voilà, donc Jésus lui-même, et qui en est l'acteur principal par ses paroles et ses actes, dans la relation, avec ceux et celles qu'il rencontre sur sa route, et c'est à la fois le point de départ de la christologie et le point de départ de l'anthropologie chrétienne. Ce jeu de relations effectives. Alors, on va prendre un tout petit peu de la hauteur à partir de ça, pour en tirer quelques, pour revenir, si vous voulez, à notre problème éthique, transformation de l'ordre éthique et émergence de la question du salut. Jésus dépasse ici l'ordre éthique. Attention, je le redis, il ne supprime pas l'ordre éthique, mais il le repositionne, et le repositionne à partir, encore une fois, de l'expérience récurrente que l'ordre éthique est en lui-même problématique. Que l'ordre éthique est en lui-même problématique. Il est problématique, je l'aurais dit encore une fois, pour au moins deux raisons. Premièrement, parce qu'il emprunte depuis les prophètes le cœur humain. Et deuxièmement, parce qu'à un moment donné, quand la non-bénédiction devient récurrente, l'homme est acculé à reconnaître que l'ordre éthique et son accomplissement dépassent ses possibilités, dépassent apparemment ses possibilités. Alors Jésus dépasse ici l'ordre éthique, il ne le supprime pas, mais le repositionne. Alors c'est tout le débat, évidemment, de Jésus avec la loi. Donc je vous renvoie au quatrième volume de Meyer qui a traité cela d'un point de vue historique. Le débat de Jésus avec les pharisiens sur l'interprétation de la loi intervient donc ici. Il ne conteste ni la loi, ni même l'idée de pureté. Le centre de son argumentation est en même temps anthropologique et théologique. Et donc là, si vous voulez, je dirais, le centre de gravité de l'ordre éthique se déplace. Écoutez-moi tous et comprenez, il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Donc c'est l'impureté du cœur qui produit finalement, je dirais, le malheur et la malédiction. Jésus prétend, contre les pharisiens, révéler immédiatement la volonté de Dieu. J'insiste ici sur le « immédiatement ». Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes d'hommes, j'ai déjà cité ce texte radical, Marc, où vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Ce qui deviendra ensuite chez Matthieu, Moïse vous a dit, moi je vous dis. Moïse vous a dit, moi je vous dis. Donc il y a une sorte de, si vous voulez, lié à l'expérience, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Il y a cette prétention d'une immédiateté par rapport à la volonté de Dieu. Et cette parole, cette volonté, voilà le déplacement par rapport à l'ordre éthique, ne concerne pas la ritualité externe, mais uniquement et radicalement le cœur humain. Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Donc ça, c'est le point de départ. Alors, vous avez chez saint Thomas une magnifique étymologie du terme « miséricorde ». Un cœur misérable, affecté de tristesse à la vue de la misère d'autrui. La miséricorde de Dieu s'approche de l'homme et advient dans l'homme, dont sort l'impur. Il reçoit un cœur nouveau, son cœur de pierre est transformé en cœur de chair. Voilà, si vous voulez, ce qui se produit concrètement dans cette relation, hic et nunc, entre Jésus et ceux et celles dont il croise le chemin. L'homme devient alors capable de miséricorde, la parabole du bon samaritain, capable de se rendre proche. Et j'ajoute ici, c'est toujours un événement jamais prévisible. Ce point est très important. Jamais prévisible. Ça serait la présomption, ce qu'on appelle la présomption. Voilà. Cette fausse identification rapide avec le bon samaritain. Ah, moi, je ne suis pas le prêtre ni le samaritain, je suis le bon samaritain. Et non. On raconte une histoire qui révèle qu'on ne peut pas prévoir la chose. On ne peut pas prévoir la chose. Est-ce que, évidemment, il y a des entrailles? Est-ce que j'aurai des entrailles en tel ou tel moment? Je ne peux pas le prévoir. C'est toujours un événement jamais prévisible, un événement charnel, comme le dit bien le terme cœur de chair. Cœur de chair. À partir de ce point de retournement, de conversion, donc qui est le point de départ, l'éthique eschatologique de Jésus est une invitation à réinventer toutes les relations. La pointe ultime étant alors chez lui ensuite l'amour de l'ennemi comme imitation de Dieu. Et là, c'est une autre manière de dire l'impartialité de Dieu. Il laisse pleuvoir sur les justes et les injustes, luire son soleil sur les méchants et les bons. Vous avez ça à la fin des antithèses, précisément, du serment sur la montagne. Donc voilà, si vous voulez, je dirais, la première étape. Donc c'est une étape d'ouverture radicale. L'annonce de l'évangile pour tous, sans condition, l'ouverture, la porte est ouverte. Alors vient ensuite, évidemment, une deuxième étape. Alors les historiens identifient cette deuxième étape avec ce qu'on appelle parfois la crise galiléenne. On trouve cette crise dans les quatre évangiles. Elle est la plus forte, si vous voulez, je dirais. C'est au moment de la confession de Césarée. Donc le récit souligne beaucoup ce point. Que disent les hommes du Fils de l'homme? Et vous dites, qui dites-vous que je suis? Et alors chez Jean, évidemment, c'est très stylisé. C'est le chapitre 6, c'est le discours des pains. Et il y a la finale. Vous aussi voulez-vous partir? Voilà la crise. Vous aussi voulez-vous partir? Il y a une sorte de point très radical de non-réception qui émerge ici. De non-réception. Et c'est là où Pierre dit, tu as les paroles de la vie éternelle, tu es le Saint de Dieu, qui est une manière de dire tu es le Christ, tu es le Saint de Dieu, à qui irions-nous, etc. Donc, vous voyez, c'est au fond... Là, je dirais, la deuxième étape que les narrateurs soulignent beaucoup. Alors, il y a une raison théologique qui intervient ici, en faveur d'une distinction, de la distinction d'une deuxième étape dans l'itinéraire de Jésus, parce qu'on pourrait dire, évidemment, la deuxième étape, c'est la crucifixion. L'entrée à Jérusalem ensuite la crucifixion, et la dernière étape serait la résurrection. Et on aurait trois étapes. Mais je pense qu'il faut bien distinguer deux étapes avant qu'on arrive, si vous voulez, je dirais, vers le récit proprement de la Passion. Il y a une raison théologique aussi. Donc il y a les données dans le texte que je viens de donner. Comment, voilà, articuler l'affirmation de la miséricorde sans condition? Ce qui est le propre de la proclamation évangélique avec la persistance de paroles et en rapport au jugement. Comment articuler cela? Voyez, introduire ici une deuxième étape, c'est au fond prendre vraiment radicalement au sérieux le donné néo-testamentaire et de ne pas oublier quand même les paroles dures et difficiles que nous mettons souvent de côté, de jugement. Voilà. Malheureuse es-tu, Chorazim. Vous voyez, dans le même texte de Luc 10, malheur à vous les pharisiens, etc. Comment articuler ça? Alors, je propose ici, dans les cinq points qui viennent, au fond, une tentative de réponse à cette énigme qui est à la fois une énigme historique, parce qu'il y a une sorte d'incohérence apparemment dans les récits sur ce point, et une réponse théologique. Premièrement, on va faire rapidement pour ne pas prolonger après 6 heures. Distinguer entre deux situations de proclamation. Ça, c'est la première réponse. C'est-à-dire, il faut distinguer dans le récit entre la situation initiale d'une proclamation ouverte qui précède l'accueil ou le refus. Au fond, le semeur est sorti pour semer. Voyez. Pour tous. Voilà. L'évangile est pour tous, cette bonne nouvelle, radicale. Il n'y a plus d'accusateur ni d'accusation. Miséricorde radicale. Et la situation fermée, quand la plupart refusent de facto le message et le messager se trouve devant l'indifférence ou l'hostilité. Donc vous voyez, là intervient évidemment les récepteurs. À ce moment, la situation change. Donc le problème de Jésus n'est plus à ce moment-là de prêcher pour tous, mais son problème, c'est-à-dire comment traiter avec l'indifférence et avec ceux qui refusent. Deuxième réponse. Se produit ici ce qu'on pourrait appeler un dédoublement du péché. Vous voyez, je mets péché ici prudemment entre guillemets. Il y a déjà un peu une définition implicite, mais évidemment on précisera ça beaucoup plus tard, ce terme, hein, dans une manière inductive, généalogique. Il faut partir de l'expérience. Ce n'est pas la transgression de tel ou tel commandement ou la découverte d'une impossible réalisation de la justice, donc la crise éthique, qui est le péché. C'est pas parce que je transgresse ceci ou cela, oui, je suis pécheur, mais ça ne suffit pas pour dire ce que c'est le péché. Ce n'est pas parce que je découvre tout un coup, mais ce qu'on demande de moi, c'est impossible. Voilà. Ah, c'est déjà une voie de salut, ça. C'est déjà une extraordinaire voie de salut. Mais ce qui pose problème, c'est la dureté du cœur. Voyez la concentration de Jésus vers le cœur nouveau et le péché, la dureté du cœur. Le véritable péché, péché redoublé et qui se situe à un autre plan, c'est le refus de la miséricorde. Le refus de la miséricorde. Quelque chose en moi veut, ne veut pas que Dieu ouvre les portes. Quelque chose en moi veut, ne veut pas que Dieu ouvre les portes. Cœur dur, qu'il soit impartial, qu'il soit parfaitement ajusté à la situation du pécheur ici et maintenant. Les paraboles, ils sont là. De la miséricorde. Le refus de la miséricorde ou l'absence de cœur, ainsi que la mise en route de stratagèmes, c'est pire encore, de rationalisation, de tradition pour se protéger contre la miséricorde sans condition de Dieu. C'est là le débat avec les pharisiens et les scribes. Jésus aime les pharisiens et les scribes, c'est des magnifiques pédagogues. Mais voyez, il pointe là, voilà, ce dérapage très nuancé qui menace tout être humain. Deuxième raison, voilà. Troisième raison, la situation nouvelle de l'homme qui fait ressurgir d'elle-même le jugement. Vous voyez, le jugement, alors, c'est Saint Jean qui a poussé jusqu'au bout. Voilà. Jean 3, 16, 19. Voilà. Il n'y a plus de jugement. Mais l'homme, le jugement, c'est l'homme qui se juge, c'est-à-dire en maintenant son cœur dur. Voilà. C'est là une nouvelle situation. Après l'offre d'une miséricorde sans condition, mais Dieu, que pourrait-il offrir encore d'autre? Qu'est-ce qu'il pourrait d'offrir de plus, une fois qu'il a ouvert les portes? Pas de partialité. Qu'est-ce qu'il pourrait offrir de plus? Dieu ne veut et ne peut pas forcer la porte de la liberté humaine. Vous voyez, c'est ça la nouvelle situation face à laquelle se trouve Jésus, la deuxième phase. C'est à cet endroit d'une impossibilité divine, alors c'est moi qui interprète ici, que se présente le psaume 109, cité par la communauté primitive pour comprendre cette situation. Donc le psaume christologique par excellence. Oracle du Seigneur, à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, celle du Christ, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Donc au cœur le cœur théologique de cette deuxième étape de la vie de Jésus, c'est le paradoxe théologique par excellence qui se manifeste au cœur de la crise galiléenne. Comment Jésus peut-il dominer jusqu'au cœur de l'ennemi quand la miséricorde même n'est pas accueillie et accueillie plutôt par un cœur dur, par l'indifférence ou par l'animosité et l'inimitié. Et il y a Origène qui a ici apporté une formule magnifique. Dieu cherche donc une voie, et ça c'est la deuxième étape, Dieu cherche donc une voie, si je puis dire. Donc il est bien conscient, le cher Origène, qu'il interprète théologiquement et qu'il se met tout un coup à la position de Dieu pour dire ça. Par laquelle nous fassions volontairement ce qu'il veut. Par laquelle nous fassions volontairement ce qu'il veut. Donc une voie d'accès mystérieuse au cœur humain, pourrait-on ajouter. Comment le cœur humain peut-il accéder à lui-même étant donné la crise du cœur humain et finalement la dureté même quand Dieu a ouvert radicalement la voie. Cette question qui émerge ici et ouvre évidemment une troisième voie, le passeur de la miséricorde, on peut donner ce titre à Jésus, le passeur de la miséricorde ne devient-il pas en raison du refus historique de sa proposition passeur d'une malédiction? Et non, et non, et non, voilà. Il suscite évidemment le refus, voilà. Mais il pousse le refus jusqu'au bout dans ses derniers retranchements, et la troisième et la dernière étape, le mystère pascal, est donc une manière de passer et de rester jusqu'au bout passeur de miséricorde. Voilà, donc ça sera après les vacances, les deux dernières étapes, et la conclusion de ce chapitre. J'espère que au moins que vous avez déjà un peu saisi dans quelle direction je vais et saisi un tout petit peu en quoi je parle de l'élargissement du terrain biblique pour notre sotériologie. Donc bonnes vacances, c'est pas tout de suite, c'est le vendredi soir et nous allons retrouver, je crois que c'est le 3 novembre, voilà, à la même heure, lundi.